Europe 1, il est midi.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la une cinquantaine d'incendiaires ont été arrêtés au cours de l'été par les gendarmes. On a appris ce chiffre ce matin. Qui sont-ils? Quel est leur profil? On verra ça avec Guillaume Dominguez. Elisabeth Borne a consulté les responsables de groupes parlementaires et elle a une conviction au sujet de la réforme des retraites. Elle déjeune avec Emmanuel Macron à midi, dans une heure, et nous savons ce qu'elle devrait lui dire. Les informations de Jacques Serret à suivre. Les vendredis thématiques sur Europe 1. Aujourd'hui, depuis ce matin jusqu'à ce soir, on parle des réseaux sociaux. On verra dans un instant les risques sur notre santé mentale avec Yasmina Katou. Et puis on sera avec Nathan Dever qui a écrit le livre « Les liens artificiels » nommé pour le Goncourt. Il sera dans Europe Midi. Son livre commence par un suicide en direct sur Internet, sur Facebook. On va parler de la place des réseaux sociaux dans nos vies. Roger Federer en double avec Rafael Nadal ce soir pour son dernier match avant la retraite. La retraite du joueur suisse qui a remporté 20 titres au Grand Chelem. Frédéric Valois dans Europe Midi qui est l'un des plus grands fans du champion Roger Federer. Et puis je voulais absolument qu'on parle des difficultés des producteurs de fruits et légumes. Les hausses de prix de l'électricité les étouffent, il n'y a pas d'autre mot. Témoignage en direct de l'un d'entre eux. Et puis on sera avec Jean-Yves Duménil, secrétaire général de la CPME. La tendance météo, Anissa Haddadi, pas de doute, l'automne est bien là. Hein.
Ah bah là c'est vrai que météo et calendrier sont vraiment raccord. Hein. Le ciel est de plus en plus gris au fil des heures. Une vraie journée automnale avec un temps qui va se dégrader cet après-midi dans le sud.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. Europe 1. La France a vécu l'un de ses pires étés sur le front des incendies. Près de 65 000 hectares de forêt sont partis en fumée, soit 6 fois la superficie de Paris. Ces départs de feu sont en grande partie d'origine humaine, près de 9 fois sur 10, vous avez bien entendu. Et selon un bilan provisoire de la gendarmerie, Guillaume Dominguez, bonjour Guillaume.
Bonjour.
Une cinquantaine de personnes ont été interpellées cet été. Hein.
Oui, 48 personnes précisément tout au long de l'été et à travers toute la France. Ce sont au total 43 enquêtes menées par la gendarmerie qui ont permis de remonter jusqu'aux auteurs des départs de feu. Dans une majeure partie des cas, l'enquête a démontré que les départs étaient involontaires, souvent liés à un manque de vigilance ou à une incivilité. C'est le cas notamment de deux mineurs de 15 ans qui ont écopé de mesures éducatives pour avoir déclenché un incendie en jouant avec des pétards, c'était dans le Morbihan. Mais dans 30% des dossiers, les enquêteurs ont démontré que l'incendie était volontaire, voire prémédité. Un jeune homme a ainsi été condamné à 2 ans de prison ferme en Gironde après avoir été reconnu coupable d'avoir déclenché plusieurs départs de feu. Ces interpellations ont mis en avant des profils d'incendiaires extrêmement variés, de tout âge, de toute classe sociale, souffrant parfois de problèmes psychologiques importants. Pour le docteur Marjorie Sueur, criminologue et psychologue spécialisée dans la pyromanie, ces incendiaires répondent avant tout à leurs propres besoins.
En général, les personnes sont focalisées sur leurs besoins à eux. C'est un moyen pour eux de communiquer, puisqu'ils ne savent pas communiquer par les mots, donc ils vont passer à l'acte. Vous avez aussi le syndrome du sauveur, un profil de pompier pyromane. Il a cette double casquette dans le sens où il va passer pour le héros, parce qu'il va pouvoir aussi avoir la maîtrise sur l'extinction de ce feu. Il va pouvoir aussi passer pour le sauveur auprès de la personne.
Et sur les 48 personnes interpellées, 12 ont déjà été condamnées avec des peines allant d'une forte amende à de la prison ferme.
Merci beaucoup Guillaume Dominguez. La réforme des retraites à présent. Elisabeth Borne a terminé ses consultations auprès des présidents de groupes parlementaires sur les textes à venir. La Première ministre continue de prendre la température, hein, on pourrait dire cela, des oppositions sans donner d'indice précis sur ce que veut faire l'exécutif. Le sujet des retraites sera au menu dans une heure du déjeuner hebdomadaire avec le président de la République et ce à quelques jours de la présentation lundi des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2023. Déjeuner au sommet donc dans moins d'une heure maintenant à 13h. Emmanuel Macron tient à cette réforme des retraites. Mais Jacques Serret. Bonjour Jacques.
Bonjour.
La Première Ministre risque bien de lui dire que c'est plus que compromis.
Oui, Emmanuel Macron était parti à New York, à l'ONU. Il avait laissé le soin à Elisabeth Borne de prendre le pouls de la représentation nationale. Mais l'exécutif se retrouve face à un mur. Des insoumis aux socialistes, en passant par les Républicains ou le Front National, tous sont opposés à un passage en force de la réforme des retraites, contre la voie de l'amendement du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Même au sein de sa propre majorité, la Première Ministre doit faire face à un vent de fronde. Le Modem, 49 députés dans l'hémicycle, pourtant alliés historiques des marcheurs, se montrent plus que réticents. La position des députés Mouvement démocrate serait certainement de voter contre, a fait savoir Jean-Paul Mattei, leur représentant. Et ce son de cloche est le même jusque dans les rangs d'une partie des élus Renaissance, jusqu'au perchoir. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, quatrième personnage de l'État, s'est elle-même déclarée pas favorable à une réforme par amendement, appelant le gouvernement à prendre le temps de la concertation. Emmanuel Macron avait redit sa volonté de voir la réforme effective d'ici à l'été 2023. Elisabeth Borne devrait calmer ses ardeurs, à moins que le locataire de l'Élysée soit décidé à y aller coûte que coûte. Une position défendue par un ministre hors micro. Il faut foncer, ou bien cela marquera une forme d'impuissance à gouverner.
Merci beaucoup Jacques Serret. Combien sont-ils à refuser l'appel sous les drapeaux? Les Russes quittent le navire pour échapper à la mobilisation en Turquie. Ils arrivent par dizaines chaque jour, des avions pleins de jeunes Russes qui veulent échapper à la mobilisation. Ils sont des centaines à fuir la Russie de Poutine. Après l'annonce de la mobilisation de réservistes avant-hier, l'une de leurs principales destinations est Istanbul, car Ankara n'a pas fermé son espace aérien à Moscou. Et les Russes peuvent entrer en Turquie sans visa. Une fuite et une échappatoire pour ces déserteurs russes. Reportage de notre correspondant en Turquie, Rémi Trio.
Dans le hall d'arrivée de l'aéroport d'Istanbul, Piotr a l'air un peu perdu, mais soulagé. Ce développeur informatique de 29 ans arrive de Moscou avec un ami et il peine encore à croire qu'il a réussi à fuir.
On ne pensait pas qu'on allait y arriver. On croyait vraiment qu'à n'importe quel moment, quelqu'un allait surgir pour nous remettre un ordre de mobilisation. J'aime me dire que je me serais rendu si j'avais été mobilisé, mais bien entendu, j'aurais été terrifié et je ne sais pas ce que j'aurais fait. Jusqu'au décollage, c'était très stressant.
Avec une petite valise chacun, Anton et Anastasia viennent aussi d'atterrir en Turquie.
Elle avait un peu peur pour moi.
Pas juste un peu.
Tout juste mariés, ils ont eu de la chance de trouver une place sur un vol pour quitter leur pays.
Les gens ont peur de recevoir leur ordre de mobilisation. Les prix des vols ont été multipliés par 3. Un billet coûte environ 2 000 $.
Malgré ces prix élevés, tous les vols entre Moscou et Istanbul affichent complet jusqu'à la semaine prochaine et ces jeunes déserteurs ne prévoient pas de rentrer en Russie. À Istanbul, Rémi Trio, Europe 1.
Comme chaque semaine, vendredi, c'est vendredi thématique sur Europe 1 pour mieux comprendre notre société. Toute la journée, on a choisi aujourd'hui de décrypter notre rapport aux réseaux sociaux. Et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Les réseaux sociaux, lieux d'échange qui peuvent devenir des espaces de harcèlement ou de véritables drogues. Figurez-vous que l'an dernier, plusieurs États américains ont ouvert une enquête contre Meta, le groupe propriétaire de Facebook et d'Instagram. Ils l'accusent d'avoir autorisé les enfants et les adolescents à utiliser ces réseaux, tout en sachant que cela pouvait avoir des conséquences sur leur santé mentale. Car les jeunes sont fragiles et les risques pour leur bien-être sont nombreux et bien réels. Yasmina Katou.
4h50 par jour, c'est en moyenne le temps que les 15-17 ans passent devant les écrans, souvent sur les réseaux sociaux. Or, de 5 à 17 ans, il est recommandé de passer moins d'1h30 sur son ordinateur ou son portable. Voir défiler la vie des autres sur Facebook, Instagram ou TikTok a des conséquences sur la santé mentale des jeunes, alerte Serval Mouton, elle est neurologue.
C'est des enfants qui, si leur réputation est détruite ou mise à mal sur un réseau social, vont être extrêmement déprimés, même parfois des idées suicidaires. Il y a également le côté l'image corporelle, en effet, parce que cette tendance à l'idéalisation, homogénéisation, peut aussi faire des dégâts à des âges où, comme je disais, ils sont sensibles, quoi.
Pour se connecter aux différents réseaux, nous sommes souvent assis ou allongés. Et à long terme, la sédentarité a des effets directs.
Ça va favoriser la survenue des infarctus du myocarde, des AVC. Et puis les écrans sont la grande cause aujourd'hui des troubles du sommeil. La lumière bleue qui donne un peu au cerveau l'information, il fait jour en fait. Donc décaler du coup l'heure d'endormissement.
Pour éviter les effets sur le sommeil, Serval Mouton recommande de troquer le téléphone contre un livre au moins 1 heure avant de se coucher.
Voilà, et dans un instant, on sera avec Nathan Devers, qui est écrivain, qui a écrit et philosophe, et qui a écrit le livre « Les liens artificiels ». On va parler, vous allez voir, on va continuer à parler des réseaux sociaux dans le cadre des vendredis thématiques sur Europe 1. Du changement à TF1, tiens, après l'échec de la fusion avec M6, Rodolphe Belmer, ancien dirigeant de Canal+, et de Telsat, va remplacer Gilles Pélisson à la tête du groupe TF1. Il est midi 10, restez bien avec nous sur Europe 1, dans Europe Midi dans un instant. Reportage dans le sud-ouest sur le risque de fissures sur les maisons à cause de la sécheresse. Vous allez voir, à tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
C'est un phénomène qui prend une ampleur inquiétante en France. La sécheresse de cet été a été tellement sévère que de très nombreuses maisons construites sur des sols argileux ont été fortement abîmées. Dans l'Aveyron, un département pas forcément habitué aux grosses chaleurs, des habitants ont découvert d'énormes fissures sur les façades au retour de l'été, comme l'a constaté notre correspondant Benjamin Péter, écouté à Villefranche-de-Rouergue.
Ça y était pas, ça. Ça, c'est depuis deux ou trois jours. Hein. Même là, celle-là, elle n'y était pas. Tous les jours, ça gagne un peu plus.
C'est début août que René a vu apparaître les premières fissures. Depuis, il en découvre de nouvelles tous les jours. Il peut passer la main dans celle qui lézarde sa façade. Une autre traverse le plafond de la chambre à coucher. Et il ne peut même plus fermer certaines fenêtres.
J'avais même mis un peu de mastic, moi, pour voir la différence. C'est que ça s'est étiré encore plus. Pour la fenêtre, c'est pas la peine. Hein. Et je voulais la remonter, mais j'ai commencé. Mais c'est pas la peine, parce que regardez la différence de niveau. Et les carreaux se cassent.
Une situation qui inquiète Marinette, son épouse.
Moi, je m'inquiète. Ben oui, tous les jours un peu plus, elle va me tomber dessus, la maison. Hein.
De l'autre côté de la rue, Gilbert, son voisin, voit les mêmes fissures apparaître sur les murs et sa terrasse se déformer.
On n'a jamais vu comme ça. Hein. C'est hyper sec. Il y a tout qui se déforme. Hein. J'ai fait ces pavés, là. Ils se soulèvent, alors que tout était de niveau, tout était nickel, quoi. Ça travaille, ouais. Même là, j'ai été obligé de refaire des joints du carrelage, parce que suite à la chaleur. Hein.
Alors, ils ont alerté la mairie, espèrent un arrêté préfectoral maintenant de catastrophe naturelle pour que les travaux de remise en état ne soient pas à leur charge. À Villefranche-de-Rouergue, Benjamin Péter, Europe 1.
Voilà, des fissures tellement importantes qu'on peut mettre la main dedans. Les fans ont déjà noté évidemment l'heure des adieux. Roger Federer jouera son dernier match de tennis ce soir à 21h30. Ce sera à l'occasion de la Laver Cup à Londres, tournoi d'exhibition dont il est le créateur. L'homme aux 20 titres de Grand Chelem ne jouera pas en simple, mais en double aux côtés de Nadal. Attention, Federer-Nadal, quel double, son ami et rival pour l'éternité. Moment exceptionnel attendu par des milliers de spectateurs et une fierté pour les Suisses qui se préparent aussi à suivre cet ultime rendez-vous. Ensuite, Federer prendra sa retraite. Reportage à Genève de l'envoyé spécial d'Europe 1, Caroline Baudry.
Roger Forever, titre en une, un hebdomadaire en vente dans un kiosque sur le parvis de la gare où flottent trois drapeaux suisses. C'est l'heure de pointe. Fin de journée pour Sylvain et Raphaël et fin du suspense pour ces deux fans de tennis.
Il va jouer avec Raphaël Nadal, c'est pas vrai?
En double.
C'est super. C'est un beau clin d'œil. Hein. C'était, je pense, les plus grands rivaux de ces 20 dernières années. Donc, c'est une belle fin de l'histoire.
C'est une super grande amitié entre les deux, de personnalité exceptionnelle.
Agathe referme sa doudoune en sortant du hall de gare. Cette habitante de Genève confie suivre de loin le tennis, mais elle regrettera le sportif et l'homme.
C'est un génie, quoi. Au niveau sportif et tout, jamais dire « Oh, je gagne et puis je suis le meilleur ». Il a toujours su se réjouir, mais dans une grande retenue.
Valentin, chauffeur de taxi, attend les clients. Ce soir, c'est dans son véhicule qu'il espère suivre le match.
Si c'est diffusé à la radio, oui. Roger Federer, c'est le premier citoyen suisse, le premier ambassadeur de Suisse dans le monde entier. C'est comme Coca-Cola, tout le monde le connaît.
Genève, Caroline Baudry, Europe 1.
Voilà, et ce match sera à suivre en fil rouge hein, dans Europe 1 Sport tous les jours entre 20h et 23h. Et ça sera ce soir donc dans Europe 1 Sport. C'est du lundi au dimanche, 20h, 23h tous les jours Europe 1 Sport. Ce soir, c'est avec Lionel Rosso. Et puis le mardi, mercredi, jeudi et vendredi avec Virginie Fulpin qui est là dans ce studio. Bonjour Virginie.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Là, on va parler football avec vous. Olivier Giroud ira-t-il à la Coupe du Monde avec les Bleus? L'équipe de France de foot a battu l'Autriche 2-0 hier soir au Stade de France en Ligue des Nations. Les buteurs se nomment Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Mbappé ira à la Coupe du Monde, évidemment. Le doute subsiste pour Olivier Giroud. Mais hier, l'attaquant a frappé fort à la porte de Didier Deschamps pour être du voyage au Qatar. Hein.
Ah bah Olivier Giroud a même mis un grand coup de tête dans la porte, hein, comme celui qu'il a déclenché pour propulser le ballon dans les buts autrichiens hier soir. Giroud aura 36 ans la semaine prochaine et il est devenu le buteur le plus âgé de l'histoire des Bleus. La belle affaire, hein, c'est pas dans le rétroviseur qu'il regarde, mais droit devant lui, vers le Qatar. Et si on en juge par les hurrahs de la foule du Stade de France à sa sortie du terrain, les 70 millions de sélectionneurs français ont fait leur choix. Le joueur du Milan AC doit aller à la Coupe du Monde. 70 millions de sélectionneurs, mais un seul en poste, Didier Deschamps. Alors, vous l'emmenez ou pas?
Est-ce que je vous ai dit qu'il y serait pas ou qu'il y serait? Ni l'un ni l'autre. Faudra attendre le mois de novembre. Mais il fait tout pour faire en sorte d'y être. Tant mieux de ce qu'il a fait, je sais qu'il est apprécié par le public, mais il l'a été aussi, c'est pas au détriment d'autres. J'aurai le temps de réfléchir avant de prendre mes décisions.
Didier Deschamps avec Cyril de la Morainerie. Est-ce qu'il doit se passer d'Olivier Giroud et miser sur des joueurs plus jeunes? Est-ce qu'il doit l'emmener? Et si l'attaquant va au Qatar, dans quel rôle? Titulaire ou doublure de Karim Benzema? En fait, plus Olivier Giroud est convaincant sur le terrain, plus Didier Deschamps a de questions à se poser. Mais hier soir, l'attaquant a aussi livré quelques réponses, un but, un message, à confirmer dimanche face au Danemark.
Virginie Fulpin, merci beaucoup Virginie. Il est fort Didier Deschamps, hein.
Il ménage la chèvre et le chou, ouais, voilà. On n'est pas plus avancé avant qu'après, c'est ça?
Oui, ouais, voilà, on n'est pas plus avancé, on sait, voilà, réponse en novembre.
Il réfléchit,
voilà, il a le droit. Merci beaucoup Virginie Fulpin. Didier Hameau de boursier.com, la bourse tous les jours dans Europe Midi. Bonjour Didier.
Bonjour Romain.
Quel est l'état de la bourse de Paris?
C'est pas flambant. Ah. Le rebond d'hier est déjà oublié. Le CAC 40 cède 1,1%, 5850 points, au plus bas depuis plus de deux mois quand même. Sur la semaine, la baisse dépasse les 4%. Depuis le 1er janvier, la bourse de Paris recule désormais de 17%. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, la crise énergétique mêlée à la hausse des taux en raison de l'inflation plombe les valeurs industrielles. On retrouve Valeo, De Richebourg, Vallourec en repli de 4 à 5% ce midi. Il y a un grand gagnant quand même, c'est la valeur refuge du moment, c'est le dollar, au plus haut depuis 20 ans, face pratiquement à toutes les devises et face à l'euro, 0,98. Les autres places financières en Europe baissent, Francfort moins 1,3%, Milan moins 1,7%, Amsterdam moins 1,9%, le CAC 40 en baisse d'1,1%, 5850 points.
Didier Hameau de boursier.com, merci Didier. La météo avec vous Anissa Haddadi, avec de plus en plus de nuages et d'humidité cet après-midi.
Oui, les entrées maritimes de ce matin sur le Languedoc-Roussillon, par exemple, sont vraiment en train de se transformer en nuages tenaces, porteurs d'averses, hein, notamment sur les Cévennes. C'est très gris aussi et très humide sur les Pyrénées-Atlantiques. Et le long des Pyrénées, là aussi, nous avons des averses qui se déclenchent avec même des coups de tonnerre. Les nuages sont de plus en plus présents sur tout le pays. Ça reste gris sur les côtes de la Manche, comme ce matin. En fait, il y a une zone entre l'Alsace et la Corse qui reste ensoleillée et agréable. Les températures, bah, grâce aux nuages, elles sont un petit peu plus douces. 18 à Brest, 22 à Paris et à Poitiers, 26 degrés pour Ajaccio et 28 à Cahors.
Anissa Haddadi, merci Anissa. Restez bien avec nous dans un instant. Témoignage dans Europe Midi. Témoignage d'Hervé Persin. Il produit des endives. Il a d'énormes difficultés parce que sa facture d'électricité explose. A tout de suite.